Radio Okapi.
Les informations, Belinda Bosuma.
Aimé Bongi Sangara, candidat unique élu président de l'Assemblée nationale, le vote a eu lieu pendant la plénière d'hier à Kinshasa. Par ailleurs, Clotilde Mutita, également candidate unique au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, est élue avec 389 voix. Mais qui sont les heureux élus? Leur portrait dans un instant. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, était hier face aux étudiants en journalisme. C'était à l'occasion d'une production foraine de l'émission Okapi Service, organisée à l'Université des Sciences de l'Information et de la Communication, UNISIC, ex-IFASIC. Vous entendrez le ministre de la Communication et des Médias. Et puis, les populations de la région de Rubaya au Nord Kivu, confrontées aux épidémies telles la rougeole, le monkeypox et le choléra, l'instabilité sécuritaire aggrave la situation, alerte Médecins sans frontières qui intervient dans la zone. Pour en parler, nous recevons Dr Toussaint Tchankoma, responsable médical de l'intervention rougeole de MSF dans la zone. À tous et à toutes, bonjour. Le remplaçant de Vital Kamerhe est désormais connu. Aimé Bongi Sangara, candidat unique, est élu président de l'Assemblée nationale avec plus de 400 voix. La plénière consacrée au vote et à son installation a eu lieu hier, jeudi à Kinshasa, tout en promettant de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Le successeur de Vital Kamerhe dit prôner une Assemblée nationale inclusive et un espace d'expression démocratique apaisé, sans stigmatisation ni méfiance. Mais qui est Aimé Bongi, le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, Grâce Hamzati?
Né le 8 janvier 1968, Aimé Bongi Sangara Bamanyirwe est le fils de l'ancien gouverneur du Kivu, Dédoné Bongi, en 1966. Économiste de formation, Aimé Bongi a fait ses études au collège Alpha Djiri de Bukavu, où il a décroché son diplôme d'état en maths physique en 1987. Il a obtenu une licence en économie, administration des affaires et gestion en 1994 à l'université Oxford Brookes en Angleterre, une maîtrise en économie du développement en 1997 à l'université d'Est Anglia, toujours en Grande-Bretagne, et un diplôme d'études supérieures en migration. Originaire du territoire de Walungu dans le sud Kivu, il a été élu député national dans cette circonscription en 2006 et réélu en 2011 et en 2023 sur la liste de l'Union pour la Nation Congolaise UNC de Vital Kamerhe. Il a été ministre du Commerce extérieur en 2016 dans le gouvernement Sami Badibanga. En 2019, il est nommé ambassadeur itinérant du président de la République Félix Tshisekedi, puis ministre du budget de 2021 à 2025. En août 2025, Aimé Bongi est nommé aux fonctions de ministre de l'Industrie. Deux mois après, soit le 20 octobre, il décide de démissionner du gouvernement afin de briguer le perchoir de l'Assemblée nationale.
De son côté, Clotilde Mutita, aussi candidate unique au poste de rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale, est élue avec 389 voix. Elle succède à Dominique Munongo à ce poste réservé à l'opposition. Clotilde Mutita dit travailler pour l'unité du pays afin de relever les défis auxquels il fait face. Pour elle, la priorité demeure le développement au profit de tout Congolais. Voyons l'essentiel du parcours de Clotilde Mutita avec vous, Grâce Hamzati.
Née à Lubumbashi dans les Haut-Katanga en 1971, Clotilde Mutita Kalunga est ancienne maire adjointe de cette ville. Elle dit avoir marqué son passage à la tête de la capitale du cuivre par une gestion tournée vers la proximité, la paix sociale et le service aux citoyens. Lors des élections générales de 2023, Clotilde Mutita a été élue députée nationale et provinciale dans la circonscription électorale de Lubumbashi sur la liste des Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi. Elle choisit donc de siéger à l'Assemblée nationale au sein du groupe parlementaire Ensemble pour la République, qu'il a désigné comme candidate de l'opposition au poste de rapporteur adjoint. En parallèle, elle poursuit sa vocation académique comme secrétaire administrative de l'École supérieure de gouvernance économique et politique ECOPO. À en croire ses proches, Clotilde Mutita se distingue par sa capacité à conjuguer loyauté politique, courage et dialogue républicain. Présentée comme femme de conviction, d'expérience et d'écoute, ses proches affirment que Clotilde Mutita incarne une opposition constructive, une pédagogie de l'équilibre et un symbole pour tous les Congolais.
Je vous l'ai dit dans les titres, le ministre congolais de la communication et des médias, Patrick Muyaya, a pris part hier jeudi à une production foraine de l'émission Okapi Service, organisée à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, ex-IFASIC. Face aux étudiants en journalisme, le ministre est revenu sur les dérives de la désinformation et des discours de haine en République démocratique du Congo, soulignant les lourdes conséquences que ces fléaux ont coûtées au pays. Les propos du ministre de la communication recueilli par Enoch Katumbi.
Écoutez, la désinformation nous coûte énormément. Vous savez que nous avions lancé, par exemple, il y a quelques années, une campagne contre la Covid où les personnes devaient être vaccinées. Il y a eu beaucoup de messages qui ont dissuadé ce qu'ils voulaient les faire et d'autres personnes sont décédées du fait de justement de ne pas avoir été vaccinées. La désinformation, c'est ce que nous, on appelle le poison rwandais dans les cadres du contexte de la guerre. Ici, il faut comprendre le poison comme la désinformation, comme un élément qui vient avec un seul objectif, détruire et diviser. Et justement, à ces poisons rwandais, nous avons opposer la vérité des faits. Nous avons imposé notre élan patriotique qui a permis d'abord de comprendre la diversité que nous avons en République démocratique du Congo.
Du côté de Beni, le renforcement de la cohésion sociale au Nord Kivu était au centre d'un atelier de réflexion organisé mercredi. Cette activité initiée par le consortium des groupes de médiation composé de Paul Institute, Interpeace et des organisations féminines locales s'inscrit dans le cadre du projet Soutien à la médiation pour la résilience et la paix à l'est de la RDC. Le compte-rendu de Marc Marofimbo.
L'atelier a réuni les autorités politico-administratives de la province du Nord Kivu, les élus provinciaux, les acteurs de la société civile, les groupes socioculturels ainsi que les représentants de la MONUSCO. L'objectif était d'évaluer les activités menées dans le cadre de la médiation des différents conflits survenus au sein des communautés des territoires de Lubero ainsi qu'en ville et territoire de Beni. Bien que les résultats obtenus aient été jugés satisfaisants, les responsables du consortium des médiations est revenu sur les contraintes rencontrées. Samuel Baobasire.
Il y a une réalité dans le Nord Kivu depuis les différentes exactions des rebelles. Les participants parlent aussi d'autres faits qui causent le mouvement des populations. Il y a la dynamique entre les conflits entre les parcs et la population riveraine. Avec cela, ce n'est pas facile pour les intérêts divergents d'arriver nécessairement et souvent à un consensus de coopération qui satisfait les différents intérêts en jeu.
Les participants ont salué les efforts déjà réalisés par les consortiums et ont encouragé les autorités à appuyer ces projets. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, qui a présidé l'activité, a quant à lui assuré l'accompagnement des autorités auprès de ces consortiums de médiation. Il convient de rappeler que ces derniers regroupent Pôle Institute, Interpeace et plusieurs organisations féminines locales. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, où l'organisation humanitaire dénommée Jeunes Ambassadeurs pour la paix et le développement appelle les populations se trouvant dans les zones opérationnelles à la prudence et leur demande de s'abstenir de toucher les restes d'explosifs de guerre et autres engins explosifs abandonnés. Message lancé dans le cadre de l'intensification d'une campagne de sensibilisation communautaire qu'elle mène sur la lutte contre les restes d'explosifs de guerre dans le territoire de Lubero. Pour rappel, l'autorité provinciale a initié il y a quelques jours une campagne de collecte d'armes à feu en échange d'argent sur l'ensemble de la province. Tout en soutenant cette initiative, cette organisation estime que la population risque de s'exposer pendant cette période de campagne en tentant de chercher les explosifs de guerre abandonnés en échange d'argent. On écoute Disciple Makassi, coordonnateur national des Jeunes Ambassadeurs pour la paix et le développement.
Notre crainte est que la population qui vit dans cette zone opérationnelle où nous observons plusieurs engins explosifs abandonnés et pendant cette forte campagne de collecte d'armes, munitions et engins explosifs en échange d'argent risque d'amener la population civile à toucher et récupérer sans réserve les engins explosifs que la population va commencer à considérer comme des trésors cachés. Vu l'urgence de protéger la population civile, l'organisation JAPED RDC demande à toute la population de la province du Nord Kivu à ne pas hasarder à s'approcher et toucher les engins explosifs comme grenades et autres. L'organisation JAPED RDC fait appel à l'appui de ses partenaires pour soutenir nos efforts de sensibilisation communautaire pour protéger cette population civile qui risque de chercher les engins explosifs abandonnés pour satisfaire la commande de l'autorité provinciale.
Autre nouvelle, l'insertion de l'épreuve orale d'anglais à l'examen d'État tel que décidé par l'inspection générale de l'enseignement ne va résoudre le problème de la pratique de l'anglais par les élèves finalistes du secondaire. C'est ce que pense en tout cas le professeur Paul Vitamara Masimango de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Kisangani. Il se demande pourquoi ces élèves qui ont suivi le cours d'anglais de la première année jusqu'en dernière année ou de l'entrée à l'université jusqu'à la sortie n'arrivent pas à s'exprimer en anglais alors qu'ils ont suivi ce cours pendant plusieurs années. Selon lui, le système d'évaluation traditionnel appliqué dans l'enseignement jusqu'aujourd'hui ne peut pas favoriser cette pratique. Il faut plutôt une évaluation formative s'il faut amener les élèves à parler une langue comme l'anglais. Le professeur Paul Vitamara s'explique dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkolé.
L'évaluation contemporaine met l'accent sur l'évaluation qu'on appelle formative, qui consiste à évaluer les élèves, mais aussi les enseignants. Les élèves pour diagnostiquer leurs difficultés, leurs failles et leurs faiblesses, et les corriger au fur et à mesure pendant l'apprentissage. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on peut améliorer l'oral de ces élèves pendant l'apprentissage. On évalue pour identifier les failles, les faiblesses, pas seulement l'élève, mais aussi les enseignants pour ajuster leur pédagogie. On évalue les élèves où les élèves sont incapables de parler en anglais, même les français. Mais alors, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas aussi l'enseignant? Alors, on évalue l'enseignant pour qu'il puisse revoir ses pratiques pédagogiques et on peut résoudre les problèmes au fur et à mesure. On serait plus content de voir nos autorités regarder plutôt dans le système, insérer cet oral d'anglais à partir du primaire, du secondaire.
Entre-temps, un malaise couve dans le secteur de l'éducation nationale où les enseignants dénoncent le retard dans le paiement de leur salaire mensuel. Réagissant hier sur Radio Capi, la synergie des syndicats des enseignants fustige cette situation et redoute qu'elle n'entrave le travail des enseignants à travers le pays. Le porte-parole de cette organisation, Jean Bosco Puna, encourage le Parlement et le gouvernement à lever des options fondamentales sur la politique salariale. Un extrait de sa déclaration proposée par Blaise Ndongala Maenda.
Les calendriers convenus de commun accord avec le gouvernement prévoient le début de la paye le 20 de chaque mois. Ce n'est plus respecté aujourd'hui et cela a des répercussions sur le travail de l'enseignant qui est forcé à attendre une paye qui n'arrive pas et cette situation le met en difficulté. Même pour arriver à son poste de travail, aujourd'hui ça pose problème. Ce qui est plus alarmant, c'est la non-tenue de la promesse du gouvernement en rapport avec l'ajout prévu au quatrième trimestre. Cela renforce les malaises des enseignants quant à la politique salariale tant réclamée et qui devrait en principe faire l'objet d'un examen au Parlement en sa qualité d'autorité budgétaire. À ce jour, cette réforme est loin d'être envisagée et au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement. On assiste dangereusement à l'explosion des cadres organiques où l'on procède à des recrutements irréguliers des agents, des fausses mécanisations qui ne permet plus au gouvernement de maîtriser les effectifs d'agents de l'État qu'il emploie.
Direction le Haut-Katanga. Parlons de ce drame. 4 enfants d'une même famille ont trouvé la mort dans un incendie survenu mercredi au quartier Koyo dans la cité frontalière de Kasumbalesa. Nous sommes à 90 km de Lubumbashi. L'origine de l'incendie qui a fait d'importants dégâts matériels n'est pas connue. Récit des faits avec Paulin Munanga.
D'après des témoins, les victimes étaient enfermées à l'intérieur de la maison par leurs parents. Les mêmes sources indiquent que les parents ont l'habitude d'enfermer les enfants lorsqu'ils se déplacent. Les voisins ont été alertés par la fumée et les flammes. Ils ont tenté de porter secours aux victimes, mais sans succès. Malheureusement, les 4 corps des enfants ont été complètement calcinés. Témoignage d'un habitant trouvé sur les lieux du drame.
La porte était bloquée, on a cassé là-bas, on est arrivé à la maison aussi était bloquée. On nous a dit non, les enfants sont à l'intérieur. Mais il y avait beaucoup d'effets. Soudain, nous avons fait toutes les forces, mais on a parvenu à faire sortir les enfants qui étaient déjà morts.
Le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, qui est descendu sur les lieux, annonce que le parquet a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie. Plusieurs sources privilégient la piste d'un court-circuit. Le maire de Kasumbalesa invite ses administrés à la vigilance et à ne pas enfermer les enfants dans la maison pour éviter ce genre d'incident. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le chanteur Akon, star du R&B et du hip-hop depuis le début des années 2000, a connu récemment des ennuis judiciaires en Géorgie. En septembre dernier, sa voiture a été immobilisée sur une route près d'Atlanta. Lors de l'intervention, la police a découvert que son permis était suspendu depuis janvier 2023 et qu'il ne disposait pas d'assurance valide. Il a reçu une contravention et son véhicule a été mis en fourrière, mais il a été relâché sur place. Le 7 novembre en cours, Akon a de nouveau été arrêté sur un mandat d'arrêt pour défaut de comparution lié à cette suspension de permis. Il a été détenu moins de 6 heures avant d'être libéré. Et malgré ces incidents, l'artiste a repris sa tournée internationale et s'est produit le 9 novembre à Delhi pour un concert en Inde.
L'invité.
Nous sommes au Nord Kivu. Les populations de plusieurs localités dans la région de Rubaya, territoire de Masisi, fait face à des épidémies, notamment la rougeole, le monkeypox et le choléra. Cette population vit dans une instabilité sécuritaire qui l'oblige à se déplacer régulièrement, ce qui aggrave la résurgence des maladies, selon MSF qui intervient dans la zone. Pour en parler, nous recevons Dr Toussaint Tchankoma, responsable médical de l'intervention rougeole de MSF dans les zones de santé de Kiroche et Katoy Masisi. Il est avec Sifa Maguru.
Docteur Toussaint Tchankoma, bonjour. Les responsables sanitaires locales de Rubaya, nous sommes en territoire de Masisi, alertent sur la présence des épidémies dans leur zone, mais aussi un accès difficile aux soins pour les populations qui sont en errance à cause des conflits. Votre organisation Médecins sans frontières est présente dans la zone pour appuyer le gouvernement. Quel constat faites-vous sur ces plans?
La rougeole est une maladie endémique en République démocratique du Congo et malheureusement, sa résurgence n'est pas un phénomène nouveau. Cependant, les épidémies ont tendance à s'aggraver ou à être plus importantes en période de conflits et de déplacements massifs de la population. Et lorsque la promiscuité, les mouvements de la population et l'accès limité à l'eau potable et aux soins de santé créent un terrain propice à la propagation rapide de la maladie dans notre pays où elle est déjà endémique. Ces facteurs combinés à un système de santé déjà saturé rendent encore plus difficile l'endiguement de la transmission et de la fourniture des soins. Pour rappel, depuis début octobre 2025, Médecins sans frontières soutient le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo dans sa lutte contre l'épidémie de rougeole sur le territoire de Masisi et précisément dans les zones de santé de Kiroche et de Katoy au Nord Kivu. MSF organise la prise en charge gratuite des cas compliqués de la rougeole et des cas simples. La prise en charge des cas compliqués se situe au niveau du centre de santé de Kachiembe à Rubaya pour les zones des zones de santé. MSF organise aussi les cas de prise en charge des cas simples dans les 9 structures dans toujours les 2 zones de santé. Depuis le lancement de cette intervention, MSF a pris en charge 1856 patients, dont 785 présentant des complications. Et dans les zones de santé de Katoy et de Kiroche, 93% des patients, vraiment, ce sont les enfants qui sont les plus touchés, avec une proportion de 93% des cas. Nous continuons toujours de suivre de près la situation et collaborer avec le ministère de la Santé afin d'apporter notre soutien dans les limites de nos capacités et de nos ressources si nécessaire.
Et au regard de ces tableaux inquiétants, comment est organisée la prise en charge et la lutte contre ces épidémies, mais aussi quels défis que vous rencontrez dans la zone?
MSF, en partenariat avec les PEV, se prépare à lancer une campagne de vaccination contre la rougeole dans les prochains jours, ciblant les enfants vraiment de 6 mois à 5 ans, qui est le groupe le plus à risque de développer une forme grave de la maladie. Et cette campagne couvrira toutes les aires de santé des 2 zones de santé, donc Kiroche et Katoy. Comme dans de nombreuses zones de conflit, l'un des principaux défis réside dans les mouvements de la population. Les familles sont fréquemment déplacées par la violence, ce qui rend difficile l'accès même à la population cible lors des opportunités de vaccination. Ces déplacements constants facilitent également la propagation de la rougeole d'une zone à l'autre, compliquant la maîtrise des épidémies et la garantie d'une couverture vaccinale homogène.
Dans ces contextes sécuritaires volatiles, comment évaluez-vous les systèmes de santé en général dans cette zone des Masisi qui est sous occupation et quel plaidoyer faites-vous pour améliorer la situation?
De plus, le système de santé de la région est déjà fortement fragilisé par des années de conflits. Les structures de santé sont submergées par les traumatismes et autres urgences, ce qui limite leur capacité à répondre à de nouvelles épidémies comme celle de la rougeole. Les besoins sont nombreux et étendus, et bien que MSF continue d'intensifier son action, nous ne pouvons y répondre seuls. Une collaboration soutenue entre les autorités sanitaires, les partenaires et les acteurs humanitaires est essentielle pour protéger les plus vulnérables, notamment les jeunes enfants. Dans la zone de santé de Katoy, des cas de Mpox se sont signalés depuis le début de l'année à la semaine 5. Il y a 344 cas ont déjà été rapportés et pris en charge par le ministère de la Santé, mais la zone manque d'appui pour la prise en charge de cette pathologie. Il y a encore une autre épidémie de choléra qui survit dans la zone depuis la semaine 41, où on a déjà pris en charge 117 cas. MSF a donné un appui de kit choléra à la zone de santé pour la prise en charge du choléra.
Docteur Toussaint, merci beaucoup pour cet éclairage.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.